Géopolitique.
Chantal Loureau.
Bonjour, bienvenue dans Géopolitique, émission enregistrée le 19 août. 20 ans après avoir été chassés du pouvoir par les Américains, les talibans sont de nouveau maîtres de l'Afghanistan. Dimanche dernier, 15 août, le monde entier a suivi sidéré l'entrée des combattants islamistes dans Kaboul, abandonnée par l'armée afghane. Un camouflet pour les États-Unis et l'OTAN, dont les troupes devaient se retirer du pays d'ici la fin du mois. Une victoire éclair qui a fait souffler un vent de panique sur la capitale afghane.
S'il vous plaît, reculez, reculez, on va tirer sur vous.
Direction le bureau de l'ancien président afghan. Un commandant prend place derrière la table. Ses hommes immortalisent l'instant. Les fondamentalistes islamistes sont de nouveau les maîtres de Kaboul.
J'étais un membre des forces afghanes. Et maintenant, je suis venu ici pour obtenir une lettre de pardon afin de quitter la ville en attendant de trouver un endroit où je pourrais rester en sécurité.
Alors que les ambassades étrangères commençaient à évacuer d'urgence leurs ressortissants, des milliers d'Afghans ont pris d'assaut l'aéroport lundi, envahi le tarmac, s'accrochant même au train d'atterrissage des avions avec une seule idée en tête, partir à tout prix. Alors les talibans ont-ils changé depuis 2001? Quelles concessions sont-ils prêts à faire pour obtenir une légitimité internationale? Vont-ils appliquer de manière moins rigoriste la loi islamique? Comment leur retour au pouvoir peut-il bouleverser l'échiquier régional? L'Afghanistan peut-elle redevenir un sanctuaire du terrorisme international? On en débat avec nos invités. Romain Maléjac, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de sciences politiques à l'université de Radboud aux Pays-Bas, auteur de The Delusion of State Building in Afghanistan, publié aux presses de l'université de Cornell. À mes côtés en studio, Marc Ecker, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche à l'IFRI et vous avez co-signé avec votre collègue Elie Tenenbaum « La guerre de 20 ans, djihadisme et contre-terrorisme au XXIe siècle » chez Robert Laffont. Et à mes côtés également Régis Le Sommier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes grand reporter, vous avez tourné en juillet en Afghanistan un documentaire au cœur des talibans, documentaire qui sera diffusé le 25 août sur Canal+. Romain Maléjac, on a tous vu ces scènes de désespoir et de chaos à l'aéroport de Kaboul en début de semaine. Une honte pour l'Occident, a déclaré le président allemand Franz-Walter Steinmeier. Est-ce que le retrait des troupes étrangères d'Afghanistan aurait pu se faire différemment ou est-ce qu'on aurait eu ce genre de scène de toute façon dès lors que les talibans reprenaient le pouvoir?
Oui, moi je suis d'accord avec le fait que c'est une honte. Le retrait aurait pu se faire différemment. Cette crise humanitaire aurait pu être empêché d'une certaine manière et surtout l'administration Biden aurait pu revenir sur cet accord de 2020 et imposer les conditions pour le retrait. Au départ, en 2020, l'accord de février 2020 de Doha prévoyait que le retrait serait conditionné au progrès des négociations inter-afghanes. Et en réalité, on voit que ça n'a pas du tout été le cas et que c'était déjà pas le cas sous l'administration Trump et pas non plus sous l'administration Biden, puisque Biden finalement a déclaré que le retrait en avril, que le retrait serait fait avant la fin août. Donc finalement ça s'est fait de manière pressée, urgente, et on en voit le résultat aujourd'hui.
Marc Ecker, l'accord de Doha n'a pas du tout été respecté par les talibans?
Moi je suis d'accord, le retrait n'était absolument pas inéluctable. C'est un choix stratégique fait par les États-Unis. Ce n'est d'ailleurs pas un choix récent, hein. Déjà Barack Obama voulait quitter le pays, hein. La rhétorique qui consiste à dire qu'il faut mettre un terme aux guerres lointaines et aux guerres coûteuses, les guerres étant celles en Afghanistan et celles en Irak, est vraiment ancienne. Simplement, les choses ne se sont pas passées comme le voulait l'administration Obama à l'époque, avec Joe Biden comme vice-président. Ensuite, les négociations avec les talibans ont commencé sous Trump, et l'accord de Doha n'était pas un accord de paix, c'était véritablement un accord de retrait, qui prévoyait ce retrait des troupes américaines, et de l'autre côté, donc taliban, les talibans s'engageaient à ne pas attaquer les États-Unis et leurs alliés durant la phase de retrait et à ne pas héberger de groupes terroristes internationaux. Et puis il y avait effectivement une troisième partie qui était l'engagement de discussions de paix inter-afghanes. Et là, on a vu que ça a été effectivement une impasse. Mais la décision stratégique, je dirais qu'il ne faut pas forcément la lier à l'accord de Doha. C'est un choix qui a été fait par ces administrations successives de retirer leur bille, entre guillemets, de ces conflits lointains et coûteux. Mais je dirais que la réflexion stratégique de base est en quelque sorte viciée. C'est-à-dire que les États-Unis expliquent qu'il faut désormais qu'ils s'orientent vers d'autres enjeux stratégiques considérés comme plus importants.
La Chine
notamment. Et au-delà des enjeux stratégiques également, ils ont besoin de moyens pour des enjeux de ce que Barack Obama appelait le nation building at home, la reconstruction d'infrastructures, le fait d'investir notamment dans les questions sanitaires, dans les questions économiques, la transition énergétique sur place. Mais ce qu'il faut voir, c'est que certes, le conflit en Afghanistan a coûté des centaines de milliards de dollars au fil des années, mais une force de quelques milliers d'hommes aurait pu être encore maintenue pendant plusieurs années sans que cela coûte pour le coup des centaines de milliards de dollars. Et ça aurait évité le scénario que l'on a vu se dérouler au cours des dernières semaines avec une avancée talibane, la prise des grandes villes successives, des capitales provinciales, puis la prise de Kaboul. Pour empêcher la chute de grandes villes, vous n'avez pas besoin de dizaines de milliers d'hommes au sol. Donc là, je crois vraiment que les choix successifs des administrations, d'abord Obama, ensuite Trump et Biden, peuvent vraiment être remis en question.
Mais en même temps, est-ce qu'une armée étrangère peut se maintenir des années dans un pays quand elle est perçue par au moins une partie de la population comme une force d'occupation, Régis Le Sommier?
Le problème de l'Afghanistan, c'est quand le gouvernement Bush, à l'époque, a décidé de frapper en Afghanistan, qui était le cœur de la machine terroriste d'Al-Qaïda.
Donc après le 11 septembre 2001.
Oui, l'endroit, faut le rappeler, où ont été formés, sélectionnés, notamment dans les camps de Kandahar, les kamikazes du 11 septembre. Donc il y avait une sorte de légitimité. On a dit la guerre d'Afghanistan est une guerre de nécessité. La guerre d'Irak était une guerre de choix. C'est le choix du gouvernement Bush d'être allé en Irak, elle n'était pas du tout nécessaire. L'Afghanistan, il y avait une légitimité. D'ailleurs, la communauté internationale, y compris l'Iran à l'époque, avait appuyé la coalition.
Y compris la Russie.
Oui. Donc, il y avait un sentiment que le danger était là et qu'il fallait agir. Ça a été fait. C'est une guerre qui a été, il faut le rappeler, relativement bien menée à l'époque, puisque l'Alliance du Nord donc, a été appuyée par les Occidentaux. Essentiellement, les Occidentaux, les troupes au sol, c'était surtout des forces spéciales. Et pendant longtemps dans le pays, ce sont les forces spéciales qui occupaient l'Afghanistan, c'est-à-dire qu'il y avait quand même une certaine discrétion. Voilà. Et pendant plusieurs années, le niveau d'activité de l'insurrection talibane, je précise quand même que les talibans, dans certaines zones d'Afghanistan, n'ont jamais disparu. Ils se sont évidemment repliés, leur gouvernement a été défait. L'Afghanistan est un pays extrêmement difficile à contrôler, et donc où il y a des zones entières qui échappent toujours au pouvoir central. Là, en l'occurrence, les talibans avaient encore des bases arrières. Mais progressivement, ça a été, vous parlez des armées étrangères, ça a été l'augmentation du nombre de troupes américaines en Afghanistan, qui a directement été en corrélation à partir de 2007, on va dire. Il y a eu une reprise de l'activité insurgée à ce moment-là et l'augmentation du nombre de troupes a donné à la population afghane la perception d'une occupation. Et la perception d'une occupation, on le sait, pour les Afghans, c'est quelque chose d'insupportable. L'Afghan est très rétif à tout ce qui est étranger. Quand c'était les forces spéciales, bon, voilà, ça allait. Il y a eu un gouvernement qui a été nommé, Hamid Karzai, etc. Les États-Unis ont tenté déjà le fameux nation building à l'époque, contrairement à ce que prétend Joe Biden aujourd'hui, mais il y a eu une période où les choses se sont relativement bien passées. Et ensuite, malheureusement, il y a eu jusqu'à 100 000 troupes américaines en Afghanistan, et c'était pas du tout pareil qu'en Irak, par exemple. Quand la contre-insurrection, ensuite, pour lutter contre ce phénomène, a voulu se mettre en place en Afghanistan, c'est beaucoup moins bien déroulé qu'en Irak. L'Irak était un pays beaucoup plus urbanisé, même s'il avait des zones aussi rurales. Mais l'Irak, face au chaos, la population de Bagdad, par exemple, acceptait beaucoup plus la présence des troupes américaines en son sein. Et moi, j'avais eu une discussion à l'époque avec le général Petraeus qui me disait, en Afghanistan, on n'arrive pas à mettre les soldats au sein des villes, parce que les Afghans n'en veulent pas. Alors, pour comprendre, par exemple, dans un village, la dynamique des mosquées, quel chef dirige, etc., etc., il faut être avec la population pour faire une véritable contre-insurrection. Et cette contre-insurrection n'a pas pu être mise en place en Afghanistan, et les États-Unis sont apparus comme une puissance occupante, et donc se sont attirés une partie de l'hostilité. La plupart des Afghans, y côté taliban comme côté gouvernemental, considèrent que les Américains ont détruit leur pays.
Romain Maléjac, les talibans ont paru eux-mêmes surpris par la fulgurance de leur progression et par la déroute de l'armée afghane. Comment expliquer que l'armée afghane, formée, entraînée, équipée par les États-Unis depuis 20 ans et trois fois, je crois, supérieure en nombre, n'ait pas été capable de résister face aux talibans ?
Je crois qu'on a tous été surpris en réalité. Il y a plusieurs choses. D'un point de vue militaire, on voit que cette armée finalement était manquée de cohérence, de coordination, et que c'est une armée qui a été également créée sur le modèle de l'armée américaine. Et à partir du moment où les Américains se sont retirés et donc ont arrêté leur soutien aérien, en tout cas depuis l'Afghanistan, ont arrêté de fournir la logistique, le renseignement, finalement cette armée a été assez incapable de fonctionner. Mais surtout, c'est une question politique. C'est-à-dire que finalement, on s'est rendu compte que dans cette dynamique où les talibans sont apparus inarrêtables, l'armée s'est assez peu battue, ça a assez peu défendu les villes, puisque les militaires finalement n'étaient pas prêts à perdre leur vie pour ce gouvernement, pour ce régime même, qu'ils considèrent comme corrompu, illégitime. C'est autant un effondrement de ce régime et de ce projet de construction d'un État qu'une victoire des talibans. Finalement, l'armée afghane est le symbole de l'échec de cette construction de l'État en Afghanistan. Et c'est pour ça que les talibans ont été capables d'avoir cette dynamique. En Afghanistan, la dynamique, c'est très important historiquement. On voit bien que souvent, en Afghanistan, il n'y a pas de combat pour les villes. Et que finalement, c'est celui qui apparaît le plus fort et qui apparaît, dont la victoire paraît inéluctable, qui va gagner. Et on voit qu'il y a des arrangements qui sont conclus, des accords pour déposer les armes ou parfois même pour changer de camp de la part de certains commandants. Ce qui a été exacerbé par le fait que Ashraf Ghani, dans les dernières années, a eu une politique de division, notamment en ce qui concerne les divisions ethniques, et a beaucoup affaibli certains commandants pro-gouvernementaux, les anciens chefs de guerre. Et donc, finalement, personne n'était prêt à combattre pour défendre ce régime.
Ashraf Ghani, l'ex-président afghan qui a fui le pays pour se réfugier aux Émirats Arabes Unis, pour, a-t-il dit, éviter un bain de sang. Régis Le Sommier, pour votre documentaire, vous avez rencontré les talibans dans la province de Wardak en juillet. Qu'est-ce qui vous a frappé au niveau de leur organisation militaire ou de leur de l'armement dont ils disposent ?
Je vais rebondir justement sur ce qui vient d'être dit à propos de la comparaison entre pourquoi les talibans ont gagné par rapport à l'armée afghane. J'ai pas mal aussi j'ai fait plusieurs séjours en Afghanistan et à plusieurs reprises je suis parti avec les troupes afghanes. La plupart des soldats se plaignaient de pas avoir été payés depuis 3 mois, voire 6 mois dans certains postes avancés, et de devoir finalement d'être laissés livrés à eux-mêmes. Donc il y avait déjà cette dimension de financement aussi, même si les équipements dont disposait l'armée afghane étaient des équipements donc américains. À l'inverse, chez les talibans, ce qui est étonnant, c'est qu'un certain nombre de jeunes soldats, de 18 à 20 ans, parlaient anglais. Et je leur ai demandé pourquoi ils parlaient anglais. Enfin, ils parlaient un anglais rudimentaire, mais quand même. Et en fait, ils me racontaient qu'ils étaient à la fac à Kaboul, et donc ils avaient donc appris l'anglais en faisant des études. Puis qu'à la sortie des études, il n'y avait aucun travail, parce que vous avez des zones en Afghanistan où vous avez 70% de chômage. Et donc, n'ayant aucun débouché, ils sont revenus dans leur village, en particulier les villages du Wardak, et les talibans payent leurs soldats, et payent leurs soldats parfois mieux que l'armée afghane. De même, quand ils prélèvent pour leurs combattants sur les villages, c'est assez caractéristique, c'est-à-dire qu'ils payent leur essence, ou ils empruntent, il y a toujours des deals à l'afghane, mais in fine, ils apparaissent comme une force moins corrompue, plus acceptable pour les populations. Ça, c'est une chose très caractéristique. Et sur le mode de vie taliban, puisqu'on a passé quelques jours avec eux, ce qui est intéressant de voir, c'est que leur doctrine, toute rigoriste et archaïque qu'elle soit, correspond très bien à la vie des campagnes. On a assisté par exemple à un tribunal de la charia. La charia appliquée au quotidien, c'est quelque chose qui correspond au mode de vie des paysans. Vous avez par exemple un différend sur un champ ou un problème matrimonial, ça, ça va être géré par la charia. Et donc le juge de la charia, vous sortez, vous savez où vous allez et le lendemain, la vie continue. À l'inverse, la justice issue du gouvernement de Kaboul d'avant, d'abord elle était corrompue, on pouvait acheter le juge, on pouvait s'en tirer relativement si on avait de l'argent, etc., ou si on était capable d'avoir un appui au niveau gouvernemental, et en plus pour s'administrer, elle mettait parfois des semaines. Il y a un côté extrêmement pratique, et les talibans jouent de ça, ils ont une idéologie qui provient justement de ces campagnes, et toute la difficulté actuellement va être de savoir comment, dans leur gestion des villes, et on le voit à Kaboul, il y a quand même une hostilité aux talibans dans Kaboul, parce que vous avez des gens qui sont entre guillemets éclairés, qui ont vécu pendant 20 ans sous l'occupation américaine et qui vivent au diapason du monde. Pour eux, se retrouver dans un espèce de cocon coupé du monde avec le mode de vie taliban, il y a un vrai choc culturel, un vrai choc social aussi. Et là, l'exercice du pouvoir des talibans va être intéressant. Comment vont-ils réussir justement ce passage vers les villes et l'administration des villes ?
J'enchaîne avec la question que tout le monde se pose depuis dimanche. Les talibans ont-ils changé depuis 2001 ? Marc Ecker, ils disent on a la même idéologie, on est les mêmes, mais on a plus d'expérience. Plus d'expérience, qu'est-ce que cela peut vouloir dire dans la bouche d'un taliban ?
Ce qu'on voit jusqu'à présent, c'est qu'ils ont changé sur leur maîtrise de la communication, de la propagande. Ils communiquent sur Twitter de manière extrêmement efficace à différents niveaux.
Voilà, ce qui n'était pas le cas, évidemment, il y a 20 ans, mais n'existait pas.
Non seulement ça n'existait pas, mais enfin, ils bannissaient la communication moderne. Cette fois, vraiment, ils se sont appropriés ces outils et ils les manient efficacement. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'ils ont un beaucoup plus grand pragmatisme au niveau de leurs relations internationales. Ils ont noué des liens, notamment avec les différents pays voisins, y compris avec l'Iran, y compris, on voit dans la presse indienne, là, apparaître des relations informelles entre des diplomates indiens et des talibans. Donc, on voit vraiment qu'ils sont devenus plus pragmatiques à ce niveau-là. En revanche, ils n'ont sans doute pas changé sur leur doctrine, sur leur volonté d'appliquer la charia, même s'ils font des déclarations pour faire bonne figure. Qui se veulent rassurantes pour faire bonne figure. Tout comme d'ailleurs, il y avait des déclarations qui se voulaient rassurantes en 1996, lorsque les talibans ont établi leur gouvernement. Donc là, je crois qu'il faut vraiment faire preuve d'une grande méfiance.
Vous êtes d'accord, Romain Malejac ? Faut-il croire les talibans quand ils assurent qu'ils ne chercheront pas à se venger et qu'ils annoncent une amnistie générale pour les fonctionnaires ? Ou quand ils affirment qu'ils laisseront les femmes travailler dans le respect des principes de l'islam et les filles aller à l'école du primaire à l'université ?
Alors là, il y a beaucoup de choses à dire. Effectivement, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit, c'est que les talibans ont évolué du point de vue de l'image, du point de vue de la communication, du point de vue de leur maîtrise de la diplomatie. Mais en revanche, l'idéologie n'a pas changé. Alors, il faut effectivement se méfier, ne pas nécessairement croire les talibans. Mais enfin, d'un autre côté, quand les talibans disent nous allons laisser les filles aller à l'école ou les femmes travailler selon les principes de l'islam, il faut toujours se souvenir que c'est les principes de l'islam selon les talibans. Donc, en fin de compte, c'est quand même une coquille assez relativement vide. On a bien vu dans les régions qui étaient dirigées par les talibans ces dernières années que finalement, rien n'avait changé. Les talibans sont toujours les mêmes d'un point de vue idéologique, sont même les mêmes que dans les années 90. En revanche, on peut s'attendre à ce qu'il y ait certains ajustements d'un point de vue cosmétique, en tout cas, de façon à ce que le régime taliban paraisse acceptable de l'étranger, puisque cette reconnaissance diplomatique et ce soutien économique est très important pour les talibans. On pourrait s'attendre à ce qu'il y ait une certaine retenue dans certains domaines. Et d'autre part, en ce qui concerne, vous disiez, notamment les personnes qui ont travaillé au gouvernement, oui, les talibans ont changé du point de vue de la communication. Les Afghans ont changé. C'est une population qui est beaucoup plus urbaine qu'à l'époque. Et il est possible que les talibans fassent en sorte de conserver un certain nombre de bureaucrates dans les organisations pour pouvoir justement diriger le pays. Puisqu'ils ont bien vu qu'ils étaient relativement incapables de le diriger dans les années 90. Et donc, de ce point de vue-là, ils pourraient avoir changé. Mais en revanche, on voit bien qu'ils n'ont pas toujours la capacité de contrôler leurs commandants, de contrôler leurs hommes. Et on sait d'ores et déjà que à Kandahar, à Kaboul, il y a des talibans qui font du porte-à-porte pour identifier les journalistes, pour identifier les gens qui ont travaillé avec le gouvernement. Et donc, on peut s'attendre également à des exactions assez terribles de ce point de vue-là.
On va se quitter le temps d'un nouveau journal sur RFI. On se retrouve dans 10 minutes pour continuer à débattre du retour au pouvoir des talibans en Afghanistan.
Priorité santé.
Caroline.
Géopolitique. Chantal Leroux.
Bienvenue si vous nous rejoignez pour la seconde partie de Géopolitique. Les talibans de retour au pouvoir en Afghanistan ont-ils changé depuis 2001? Les milliers d'Afghans qui ont voulu quitter le pays depuis une semaine n'y croient pas une seconde. Écoutez le témoignage de notre correspondante à Kaboul, Sonia Ghezali, en attente d'évacuation mardi à l'aéroport de la capitale afghane.
C'est assez surréaliste et on a vu des femmes arriver tremblantes, en pleurs, effrayées parce que les talibans ce sont les ennemis de ces 20 dernières années pour ceux qui soutenaient le gouvernement afghan et l'idée de la République afghane. C'est tout un rêve qui s'effondre, celui de la modernité, celui de la démocratie. Les personnes, les Afghans qui sont ici au sein de l'ambassade de France sont effondrés. C'est très difficile pour eux de partir, d'être évacués en laissant derrière eux leur famille, mais aussi leur rêve en fait d'un Afghanistan ouvert et moderne.
Les talibans sont-ils prêts à faire des concessions pour obtenir une légitimité internationale? Comment leur retour au pouvoir va-t-il bouleverser l'échiquier régional? L'Afghanistan peut-elle redevenir un sanctuaire du terrorisme international? On continue d'en débattre avec trois spécialistes de l'Afghanistan, Romain Maléjac, Marc Ecker et Régis Le Sommier. Marc Ecker, est-ce que ces contradictions entre les paroles rassurantes prononcées à Kaboul par les porte-paroles talibans et ce qui se passe en province depuis plusieurs jours, traduit des dissensions au sein du mouvement entre modérés, entre guillemets, et radicaux, entre guillemets.
Il y a une grande question depuis des années qui est à quel point est-ce un mouvement unifié ou pas. On avait vu notamment que quand le Mollah Baradar avait été arrêté en 2010, il y avait eu des fortes dissensions internes entre différentes Chouras, Chouras de Quetta, Chouras de Peshawar, de Miranshah. Mais en même temps, l'offensive des derniers mois montre qu'il y a eu une vraie unité de commandement, une capacité à agir comme un groupe unifié. Maintenant, ce n'est sans doute pas un groupe unifié comme une armée classique, traditionnelle, occidentale, et il peut y avoir des marges de manœuvre différentes selon les groupes et selon les régions, ce qui explique sans doute pourquoi on voit déjà des exactions dans certaines provinces, alors qu'à d'autres endroits, il y a des gages de bonne volonté qui sont donnés. Donc là, on est un peu dans l'expectative, mais pour en revenir à votre petite introduction, je crois que pour la communauté internationale et en particulier pour les pays occidentaux, un point essentiel va être est-ce que les talibans ont changé sur leurs relations avec des groupes terroristes internationaux. Et ce qu'on sait là d'ores et déjà, c'est que les talibans sont opposés depuis des années à Daesh et l'ont encore montré au cours des toutes dernières semaines avec visiblement des éliminations de cadres de Daesh qui étaient retenus dans des prisons que les talibans ont reprises. Et puis on voit aussi côté de Daesh qu'il y a eu des communiqués pour montrer qu'ils attaquent sporadiquement avec des moyens très faibles des combattants talibans. En revanche, les liens entre Al-Qaïda et les talibans là sont historiques et ont vraisemblablement été maintenus au cours des deux dernières décennies, avec aussi bien Al-Qaïda central, même s'il n'en reste sans doute plus grand-chose autour de Zawahiri, et on se demande même s'il est en territoire afghan ou plutôt en territoire pakistanais, mais pour ce qui est d'Al-Qaïda dans le sous-continent indien, la branche donc régionale d'Al-Qaïda, là il y a des faisceaux d'indices qui montrent que les liens ont été maintenus et ne sont pas si ténus que ça. Un exemple parmi d'autres, c'est l'élimination d'Asim Umar, l'émir d'Al-Qaïda au sous-continent indien, en 2019 dans un raid sur Moussa Kala, sur une cache talibane, raid américano-afghan. Les talibans disaient déjà à l'époque qu'ils avaient plus ou moins rompu avec Al-Qaïda. Or, il y a eu la preuve formelle que là, ils hébergeaient des cadres très importants d'Al-Qaïda au sous-continent indien.
Romain Maléjac, vous êtes d'accord? Dans l'accord de Doha, les talibans ont promis, semble-t-il, aux États-Unis de ne plus soutenir Al-Qaïda. Et vraisemblablement, ils n'ont pas rompu les liens avec le mouvement de feu Ben Laden. Est-ce que ça ne risque pas d'empêcher un certain nombre de gouvernements dans le monde de reconnaître le régime des talibans? Et est-ce que le risque, c'est pas de faire de l'Afghanistan un État paria?
Oui, alors c'est effectivement c'est le risque. À mon avis, c'est également une fenêtre d'opportunité. C'est-à-dire que effectivement, les talibans n'ont jamais rompu leur lien avec Al-Qaïda, et même depuis février 2020, puisqu'on sait très bien que ils ont des liens très forts, personnels, individuels, familiaux, maritaux. Rompre les liens avec Al-Qaïda a un coût certain pour les talibans, notamment en termes de soutien externe et interne, pour pas donc se mettre à dos certains commandants, notamment en Afghanistan, et pour pas se couper de soutien extérieur. Mais aujourd'hui, c'est peut-être effectivement la ligne rouge pour les diplomaties occidentales notamment, mais également les pays de la région, puisque les talibans vont avoir tout intérêt à coopérer en termes d'antiterrorisme s'ils veulent pouvoir avoir un soutien économique et diplomatique, et donc éventuellement d'obtenir la reconnaissance internationale. Ça passera par justement cette coopération en termes d'antiterrorisme qui était contenue dans les accords de Doha. Et sur la question de l'État islamique, effectivement, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. C'est-à-dire que de toute façon, les talibans ont toujours été en guerre ouverte contre l'État islamique. Alors, ils ont parfois coopéré de manière ponctuelle pour lutter contre l'ennemi commun, qui était donc le gouvernement. Mais sinon, on sait bien qu'il n'y aura pas de soutien des talibans à l'État islamique.
Marc Ecker.
L'accord de Doha ne va pas jusqu'à prévoir une coopération antiterroriste. L'accord de Doha demande aux talibans de s'engager assez vaguement sur le fait de ne pas soutenir, de ne pas héberger des groupes de ce type. Et précisément, je crois que si les talibans s'installent durablement, il faudra que les pays de la région et plus largement éventuellement les pays occidentaux demandent des gages aux talibans. C'est-à-dire qu'on peut aller jusqu'à leur demander véritablement de livrer des cadres d'Al-Qaïda et des cadres de Daesh. Est-ce qu'ils iront jusqu'à ce type de coopération? Précisément, hein, là, on revient à des déclarations de ces derniers jours. Il faudra les juger sur leurs actes et pas sur leurs paroles.
C'est ce qu'on dit pas mal de pays occidentaux. Hein. Il y a les mots et puis il y a les actes et on jugera sur pièce. C'est ce qu'on dit l'Allemagne, la France, les États-Unis, le Royaume-Uni. Régis Le Sommier, la hantise des occidentaux, c'est que l'Afghanistan redevienne un sanctuaire du terrorisme. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez que c'est un vrai risque?
C'est un vrai risque. Moi, je rajouterais une chose, c'est que la question pour les talibans, c'est est-ce que les talibans vont avoir la capacité de contrôler cet Afghanistan. On sait déjà, par exemple, que la région du Panjshir leur échappe. C'est là où s'est réfugié le fils Massoud et là où il a appelé maintenant les combattants anti-talibans à le rejoindre pour commencer une résistance.
Mais qu'est-ce qu'il représente aujourd'hui le fils du commandant Massoud?
Il représente pas grand-chose politiquement en Afghanistan, ça c'est une réalité. Hein. Il représente plus de choses à Paris et auprès de certaines élites françaises qu'en Afghanistan. Néanmoins, on peut quand même se poser la question au niveau diplomatique, au niveau est-ce que on peut avoir imaginé une représentation du régime taliban à l'ONU tout en gardant des liens avec Al-Qaïda? Ça paraît quand même difficile. Alors, on sait que les nations un peu moins sourcilleuses sur ces questions-là, que sont la Russie ou la Chine, encore que la Chine traite avec les talibans parce qu'il y a la question ouïghour, ils ont eux-mêmes leur minorité musulmane très active dans le djihad, donc ils ont intérêt justement à faire en sorte que les talibans ne viennent pas instrumentaliser la lutte des ouïghours sur leur territoire. Donc là, il y a un côté pragmatique de la part des Chinois, les Russes également, parce qu'il y a toute la question de la zone d'influence des Russes. Donc là, il y a des relations qui sont déjà établies. On a parlé de celle avec l'Inde aussi. Donc les pays de la région reprennent langue. Maintenant, au niveau du concert des nations, au niveau de l'Occident, le Canada a dit qu'il ne reconnaîtrait pas le régime des talibans. Il va y avoir il va falloir qu'il clarifie. De même qu'on a dit dans la première partie, qu'en politique intérieure aussi, est-ce que ça va être une opération de séduction au début et ensuite une répression sauvage? Il y a un moment, il faudra qu'ils abattent leurs cartes. On peut pas pouvoir continuer à jouer sur ces deux tableaux, à incarner la résistance afghane à l'occupation, ce qu'ils ont bien fait. Faut rappeler que ils ont aussi réussi cette fois-ci, à la différence de la dernière fois. En 96, les talibans ont conquis le pays essentiellement depuis leur zone naturelle du sud, les zones donc pachtounes, contre l'alliance du nord qui était faite donc des ouzbeks, des tadjiks, des hazaras. Et aujourd'hui, ils ont réussi à apparaître comme un ferment d'unité nationale. Toute la cohésion du mouvement taliban aujourd'hui est liée au fait d'avoir un ennemi commun. L'ennemi commun ayant disparu, et je reviens à ma question, à mon point de départ, c'est vont-ils pouvoir contrôler, vont-ils avoir les moyens de contrôler cet Afghanistan ? On sait qu'il y a les zones non tribales de l'autre côté, avec une possibilité et des groupes qui peuvent s'implanter et toujours agir au niveau international, des groupes djihadistes qui peuvent s'implanter dans ces régions-là. Voilà.
Vous avez mentionné la Chine et la Russie. On va commencer par la Chine. Marc Ecker, Pékin n'avait pas reconnu le régime des talibans de 96 à 2001. Aujourd'hui, la Chine voit en eux une force militaire et politique cruciale en Afghanistan pour la paix, la réconciliation et la reconstruction du pays. Pourquoi ce revirement ?
La Chine a une position très pragmatique. Ils cherchent des forces qui stabilisent une zone pour leur permettre de déployer leurs propres projets économiques et stratégiques. Donc les projets économiques dans la zone, ça va être notamment de l'exploitation de minerais. On sait que l'Afghanistan est riche de minerais, notamment du lithium. Et puis, ça va être aussi une voie de passage dans le projet des nouvelles routes de la soie, voie de passage qui permet donc d'aller vers le Pakistan, les grands ports pakistanais. Donc là, je crois que la Chine est dans une logique très pragmatique, très orientée business et conforme à ses intérêts nationaux, avec des négociations sur la question des Ouïghours qui a été évoquée tout à l'heure.
Voilà, Pékin a vraiment obtenu des assurances des talibans quand ils se sont récemment rendus à Pékin sur le fait qu'ils ne soutiendraient pas les Ouïghours.
Il y a eu un mois à peu près une interview très intéressante du premier ministre pakistanais. Il a été interrogé d'abord sur l'islamophobie dans les pays occidentaux. Il s'est véritablement lâché. Et puis le journaliste lui a posé la question suivante, c'était « Et les Ouïghours ?» Et là, le premier ministre pakistanais s'est totalement tu. Il y a eu vraiment un blanc. Il a dit « Je ne commenterai pas, la Chine est un pays ami ». On se dit les choses derrière des portes fermées, mais pas en public. Et le journaliste a insisté, lui a dit « Mais ça vous fait pas mal de vous taire comme ça ?» Et il a dit « La Chine nous a sauvés économiquement quand plus personne ne voulait nous aider ». Et voilà, il n'est pas revenu sur cette position. Je pense que c'est le même type de discussion qui ont dû avoir lieu avec les talibans entre Baradar et Wang Yi quand le Moula Baradar a été reçu récemment par Wang Yi en Chine.
Romain Maléjac, de son côté, la Russie, comme la Chine, a décidé de maintenir ouverte son ambassade à Kaboul. La Russie a jugé positive les premières déclarations des nouveaux maîtres de Kaboul. Est-ce que c'est la lutte contre leur ennemi commun, Daesh, qui a rapproché les deux parties ?
C'est en partie la lutte contre l'ennemi commun, contre Daesh, mais également il souhaite certainement coopérer en termes d'antiterrorisme pour contrôler le mouvement islamique ouzbek. Mais on voit surtout que la Russie, de toute façon, de même que la Chine dont on vient de parler, a une attitude pragmatique. Alors pas nécessairement sur des raisons économiques, mais l'Afghanistan, pour la Russie, a toujours fait partie de sa zone d'influence. Puisqu'il faut quand même rappeler qu'il y a eu le grand jeu entre l'Empire russe et l'Empire des Indes britanniques au XIXe siècle. Les Russes ont été très impliqués et ont financé des projets d'investissement quand même en Afghanistan tout au long du XXe siècle. Et puis, évidemment, l'Union soviétique est intervenue et a passé 10 ans en Afghanistan. Et donc, cette région pour la Russie et pour le Kremlin, finalement, cette frontière nord de l'Afghanistan, c'est la frontière de l'ancien empire. Donc c'est très important maintenant qu'il y a un peu plus un certain vide politique, notamment avec le départ des Américains. On peut s'attendre effectivement à ce que les Russes soient de plus en plus impliqués. Ils avaient déjà organisé des négociations avec les talibans. Ils parlent régulièrement aux talibans. Voilà, on sait que c'est une zone qui est importante pour eux et que la question des droits de l'homme pour le régime russe est relativement secondaire. Donc finalement, ils n'ont pas de raison de ne pas rester en Afghanistan et d'avoir des relations avec les maîtres du pouvoir à Kaboul.
Et l'Iran, est-ce que le pays se réjouit de la déroute américaine en Afghanistan ? Et en même temps, est-ce qu'il ne craint pas d'avoir désormais pour voisin un État sunnite fort ? Marc Ecker.
La position de l'Iran vis-à-vis des talibans a énormément changé. Il faut se souvenir que dans les années 90, il y avait une hostilité très forte. Rappelons-nous que lorsque Mazar-i Sharif avait été prise par les talibans, une dizaine de diplomates iraniens avaient été froidement tués. Les Iraniens veulent à tout prix éviter ce genre de situation à nouveau et ont noué des liens avec les talibans depuis des années maintenant. Donc là encore, je crois qu'ils vont faire preuve d'un beaucoup plus grand pragmatisme que dans les années 90.
Régis Le Sommier, il y a aussi la Turquie. Et là, le bon mot, c'est peut-être opportunisme.
Alors la Turquie est en pleine expansion, hein, pas que militaire, hein, Économiquement, la Turquie, on le sait aussi, est très présente en Afrique. Elle a beaucoup investi. Elle est en plein déploiement. Il y a une sorte de voilà.
Là, et aujourd'hui, Recep Tayyip Erdogan veut peut-être juguler le flot de réfugiés afghans en s'entendant avec les talibans.
C'est sans doute et puis les talibans ont d'abord demandé aux Afghans de rester en Afghanistan aussi. Hein, donc il y a une entente possible. C'est clair que là donc les Turcs vont regarder ça. D'un point de vue migratoire, ça c'est vraiment le point crucial. On sait que la Turquie a sur son territoire encore 3 millions de Syriens. Récupérer encore 1 million d'Afghans pour eux, c'est un coût énorme.
Elle en a déjà 170 000.
Voilà, et donc c'est vrai que
Et les discours anti-migrants se multiplient en Turquie.
Totalement, mais 3 millions de Syriens. Donc la Turquie, évidemment, va vouloir être aussi, à mon avis, extrêmement pragmatique. Et par rapport à la question des Ouïghours, tout à l'heure, l'exemple de Imran Khan était assez étonnant, enfin du Premier ministre pakistanais, mais pas si étonnant que ça. Et Erdogan non plus n'a pas volé au secours des Ouïghours à cause des relations avec le géant chinois. Là, on est dans le pragmatisme, on est dans l'économie, on est dans... Voilà, et au-delà de ça, on peut toujours critiquer les caricatures du prophète en Occident, mais on ne s'attaquera pas aux Chinois, voilà.
Marc Ecker, est-ce que le Pakistan est le pays qui se réjouit le plus du retour au pouvoir des talibans ?
On entend des choses très différentes sur les liens entre les talibans et le Pakistan. Certains disent qu'il y a encore des liens très très forts entre une partie de l'ISI et le Pakistan, d'autres disent que non. Ce qui semble assez clair, c'est que les talibans ont acquis une véritable autonomie quand même aujourd'hui et sont capables d'agir de leur fait et d'avoir aussi leur ligne stratégique. Et par ailleurs, ce qu'on peut entendre et lire, c'est qu'il pourrait y avoir un effet, disons, mobilisateur aussi pour les talibans pakistanais, ce qui, pour le coup, n'est pas une bonne nouvelle pour le gouvernement pakistanais.
Romain Maléjac, est-ce que la question migratoire et la crainte des Européens de voir se succéder des vagues de réfugiés afghans, est-ce que ça ne risque pas d'influer sur la politique de l'Union européenne ? Les déclarations de Joseph Borrell, le chef de la diplomatie européenne, mardi ont été assez claires. Les talibans ont gagné la guerre, nous devons parler avec eux.
Oui, moi je suis d'avis de toute façon que l'Union européenne doit parler avec les talibans, mais... La question migratoire, j'avoue que la façon dont le débat est posé en ce moment me dérange un peu quand on entend le président de la République, Emmanuel Macron, qui parle de se défendre, se protéger contre cette vague migratoire. J'avoue que j'ai un certain malaise, même un certain dégoût. C'est-à-dire que la France, comme le reste des pays de l'OTAN, mais également évidemment les États-Unis à plus forte raison, la France a une responsabilité, c'est-à-dire qu'il faut aujourd'hui, il faut accueillir les Afghans, et en particulier les Afghans qui ont travaillé avec la France, à qui on a promis des choses, à qui on a fait miroiter une nouvelle société, à qui on a promis de la protection, et aujourd'hui les Afghans se sentent abandonnés. Moi je parle régulièrement avec des gens sur place, et c'est le chaos le plus total, et l'incompréhension la plus totale, et aujourd'hui moi je pense que la priorité c'est d'accueillir les Afghans.
Si l'on devait ne tirer qu'une leçon de ce fiasco occidental en Afghanistan, en quelques mots, pour vous, Marc Ecker ?
Je crois que la notion de temps est importante, que les talibans n'ont cessé de répéter qu'ils avaient le temps pour eux, et ils ont fait preuve de patience stratégique. La patience stratégique, c'est une thématique importante dans la mouvance djihadiste, et de notre côté, on n'a pas les mêmes échelles de temps. Alors quand on parle en plus d'expéditions militaires lointaines et donc coûteuses, cette dimension temporelle devient très importante.
Romain Maljac ?
Moi, si je reviens à 2001, je crois que l'Afghanistan et même l'Irak, la leçon à en tirer, c'est que la construction de l'État par l'extérieur, la construction de l'État par les armes ne fonctionne pas et qu'on ne peut pas imposer un régime politique, on ne peut pas changer les régimes et les gouvernements au gré des intérêts des Américains ou de la coalition ou de quelque autre pays. Voilà. Cette construction d'État n'a pas fonctionné.
Régis Le Sommier.
Moi, c'est le sentiment d'un échec complet. Hein. Donc, en termes d'image et d'affaiblissement des États-Unis, c'est considérable. Et puis, ce qui s'est passé, c'est redonner les clés exactement aux mêmes gens qu'on était censé venir chasser il y a 20 ans.
Merci à tous les trois d'avoir été nos invités. Romain Maléjac, professeur de sciences politiques à l'université de Radboud aux Pays-Bas, auteur de The Delusion of State Building in Afghanistan aux presses de l'université de Cornell. Marc Ecker, directeur de recherche à l'IFRI. Je renvoie nos auditeurs à votre livre écrit avec Elie Tenenbaum, La guerre de 20 ans, djihadisme et contre-terrorisme au 21e siècle, paru chez Robert Laffont. Régis Le Sommier, grand reporter, votre dernier documentaire au cœur des talibans, tourné en juillet en Afghanistan, sera diffusé le 25 août sur Canal+. Bonne semaine à tous et portez-vous bien.